Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous hebdomadaire du spectacle vivant à Rennes. Bonjour Martin.
Bonjour Léa, après 2 semaines de vacances, nous sommes heureux de vous retrouver. Qui dit rentrée dit aussi reprise des événements culturels. Le théâtre, après une courte pause de 2 semaines, est de retour.
On espère d'ailleurs que vous avez tous et toutes passé de bonnes vacances. Et l'été arrive, ça fait du bien.
Au programme de cette rentrée et de cette émission, justement, la reprise de l'Empire des Lumières, spectacle mis en scène par Arthur Noziciel, est créée pour la première fois en 2016 au National Theatre Company of Korea.
On parlera donc adaptation littéraire, création internationale, reprise de création, avec le metteur en scène et directeur du TNB, Arthur Noziciel.
Mais avant toute chose, on fait un petit point actu.
Ce soir, vous pouvez retrouver au Triangle le spectacle « Je rentre dans le droit chemin » qui, comme tu le sais, n'existe pas et qui par ailleurs n'est pas droit. Pourquoi, quand et comment la nudité a-t-elle un sens sur scène ? Entre fausses conférences et danse vraie, Sylvain Riéjou défie frontalement ses interrogations et expose sur scène ses propres réponses. Sur fond d'autodérision et avec une étonnante pudeur, il nous explique que, pour lui, toute création artistique implique de se dévoiler, et donc de se mettre à poil. Et c'est ce soir à 20h au Triangle, alors courez-y.
On en avait parlé il y a un an, à cette occasion nous avons diffusé son interview la semaine passée. Le spectacle, la trilogie des contes immoraux pour Europe, est joué au TNB. Maison mère, temple père, la rencontre interdite. À travers ces 3 volets, Fiaménard assiège la citadelle bétonnée d'une Europe à la dérive. Ce spectacle de 3 heures, entre performance et constat social, est à ne pas manquer. La première a lieu ce soir et le spectacle est joué jusqu'à jeudi prochain.
Le théâtre arrive chez vos voisins. C'est la 6e édition des Scènes Nomades avec des troupes amateurs qui jouent leur spectacle chez l'habitant du 30 avril au 1er mai 2022. Piloté par le Centre culturel du Reux, Agora, le festival des Scènes Nomades, propose de l'humour, du drame, de la philosophie et de la poésie en partenariat avec le théâtre de 20h15, une troupe reusoise et la DEC, la maison du théâtre amateur en Ille-et-Vilaine qu'on connaît bien maintenant. Durant 2 jours, 8 spectacles seront à l'affiche. Et vous pourrez retrouver toutes les informations en ligne sur le site de l'association Agora.
Après l'exploration de la richesse artistique du continent africain dans le cadre de la saison Africa 2020, le TNB poursuit son voyage à travers la création internationale. C'est la Corée qui est à l'honneur du printemps TNB 2022 avec le spectacle-événement L'Empire des Lumières de Kim Jong-ha, mis en scène par Arthur Noziciel, dont nous parlerons dans quelques instants. Mais ce temps fort propose aussi toute une série d'événements, cinéma, spectacle, Norea Bang, karaoké, exposition, littérature, gastronomie, K-pop. Pour découvrir la culture coréenne et son histoire, retrouvez toute la programmation sur le site du TNB.
On l'a dit, c'est justement dans le cadre du printemps du TNB coréen qu'est rejoué l'Empire des Lumières. Martin, tu as justement rencontré Arthur Noziciel à propos de cette création, adaptée du best-seller de l'auteur coréen Kim Jong-ha.
Oui, mais avant d'en parler, on fait une courte pause musicale. On écoute Arirang de Yoon Sun Na, une chanteuse de jazz sud-coréenne.
Arirang
C'était Arirang de Yung Sun Ha. L'Arirang est une mélodie folklorique coréenne qui chante l'amour abandonné. Vous pourrez retrouver des impromptus musicaux durant le printemps du TNB coréen. Ce sera le mercredi 4 mai au bar du TNB et ce seront les élèves du conservatoire qui proposeront ces excursions musicales.
Ah, l'amour! L'amour qui est aussi au centre du spectacle L'Empire des Lumières. Adapté du best-seller de Kim Jong-ha et mis en scène par Arthur Noziciel qui nous présente tout de suite cette recréation au micro de Martin.
Arthur Noziciel, bonjour.
Bonjour.
On se rencontre aujourd'hui au TNB pour la reprise de votre mise en scène de L'Empire des Lumières d'après le roman de Kim Jong-ha qui se joue depuis hier et ce jusqu'au 10 mai en salle Cero. On peut résumer la fable du spectacle ainsi. Kim Kae-yong est un espion nord-coréen introduit depuis 20 ans en Corée du Sud où il a construit sa vie avec femme et enfant. Un courriel le rappelle à sa réalité d'espion dormant. Il a 24 heures pour retourner dans son pays natal en quittant tout ce qu'il a bâti depuis toutes ces années. Vous avez adapté le roman avec Valérie Mregen. Le roman est écrit en 24 chapitres pour correspondre aux 24 heures d'une journée. Comment s'est passé le travail d'adaptation ?
Alors c'est sûr que c'est un roman assez foisonnant. Il se passe beaucoup de choses entre la fiction policière, on va dire, la fuite de Kyung, son errance dans Séoul, se demandant s'il va rester, pas rester, sa femme, et puis un autre personnage important dans le livre qu'on a supprimé, qui est leur fille. Et en fait, voilà, le roman, en s'attachant à ces trois personnages dans une situation un peu extrême, comme ça, un peu tendue, en profite pour tracer un portrait de la société coréenne contemporaine et en mélangeant à la fois cette histoire d'espionnage et à la fois à travers les souvenirs, en revenant sur l'histoire et le passé des personnages, reconstruit une histoire de la Corée qui est devenue ensuite Corée du Sud et Corée du Nord. Donc c'est un roman assez important en termes d'histoire, de pages, on va dire. C'est assez, donc il a fallu faire des choix évidemment. Ce spectacle est né à la demande du Théâtre National de Corée Alors quand on dit, nous on dit Théâtre National de Corée, mais pour eux c'est induit que c'est celle du Sud. Ils avaient envie depuis longtemps d'adapter ce roman en fait, qui est un roman voilà, qui a eu du succès, qui est un roman très connu là-bas, d'un auteur très reconnu. Et peut-être parce qu'à la fois c'est un roman qui parle vraiment de la Corée, mais qui en parle de manière un peu différente. C'est-à-dire que le regard de Kim Jong-ha essaie d'être un regard équilibré entre la façon dont il parle du Sud et du Nord, alors que le discours en Corée du Sud, et particulièrement quand on a fait le spectacle, où le gouvernement à ce moment-là était un gouvernement quasiment d'extrême droite, avait tendance à vraiment diaboliser la Corée du Nord, enfin à juste titre, hein, mais diaboliser son dictateur n'est pas diaboliser un peuple. Donc en fait, je pense qu'il y avait quelque chose de très polémique, que potentiellement ils se sont dit, il vaudrait peut-être mieux confier ça à un metteur en scène étranger. Le regard de distance, en fait, peut être plus intéressant. Après, Kim Jong-ha a été blacklisté de toute façon, donc ça a été source de beaucoup de problèmes. L'adaptation, elle s'est faite en essayant de se concentrer sur ce qui m'intéressait peut-être plus dans le roman, qui était, à travers cette histoire d'espion, comment la vie de cet homme lui a été volée. C'est-à-dire, comme son identité est une identité construite pour convaincre qu'il n'est pas celui qu'il est. En fait, c'est l'histoire d'un mensonge et de la fabrication d'un mensonge et comment on se dilue dans ça. L'impact que ça a dans la vie des autres, comment ça va affecter sa femme, sa fille, le monde qui l'entoure et comment entre 20 et 40 ans, en fait, il a passé 20 ans à mentir et à être celui qu'il n'est pas. Et je trouve ça assez fascinant, en fait. Et à travers ça aussi, ce qui, moi, me plaisait beaucoup dans le roman, c'est ce qu'il raconte de la Corée du Nord et de la fabrication d'un espion, comment en fait on en arrive là, sur quelle base, comment se passe l'entraînement d'un espion nord-coréen, comment se passe l'arrivée dans la Corée du Sud, dans un moment au mi-temps des années 80, où il y a ces mouvements démocratiques et révolutionnaires étudiants en Corée du Sud, qui vont être très importants et qui vont être réglés par les armes, en fait, qui vont coûter la vie de nombreux jeunes. Dans ce moment un peu marquant de l'histoire de la Corée du Sud, je trouvais qu'il y avait vraiment matière à raconter plein de choses. Donc on a choisi avec Valérie Mregen un petit peu un axe de fiction en respectant l'histoire de ces 24 heures de Kyong, mais dans lequel on a essayé de mettre en valeur justement tout ce qui est de la mémoire, du passé, de l'histoire de cet homme et donc de son pays. Et puis assez rapidement est venue aussi l'envie d'interroger les acteurs sur leur propre rapport à la Corée du Nord, à eux, à leur famille, leur histoire. Et je me suis aperçu qu'il y avait aussi une belle matière pour finalement faire un spectacle sur le témoignage et sur la valeur du témoin. Et puis un autre moment important, je dirais que la troisième étape de l'adaptation, elle s'est faite avec Pierre-Alain Giraud, qui est le cinéaste qui a réalisé des images du film pour le spectacle. Et là, il a fallu repenser l'adaptation pour être dans un lien intéressant entre l'image cinéma et le théâtre, en fait, et de travailler sur ces deux plans. Donc ça aussi, c'était un travail d'adaptation, parce que je voulais pas que l'image raconte des choses que le théâtre ne saurait pas raconter. C'est-à-dire, je crois vraiment que le théâtre peut tout raconter. On n'a pas besoin d'image. Tout récit peut être raconté au théâtre. Et l'a été jusque-là. Donc si on met de l'image, c'est quoi l'apport de l'image en plus? Et donc, on a choisi d'intégrer vraiment le cinéma dans cette production pour parler de Séoul aussi, pour parler de cette ville qui est vraiment un personnage important du roman, puisque Ki Yong-fui, sa femme qui s'appelle Marie, elle flotte, elle est dans un moment de sa vie où le sens de sa vie lui échappe un peu, et donc elle est plutôt en errance, et donc c'était de raconter comment les lieux qu'il traverse, comment les centres commerciaux, le métro, les love hotels, le fleuve, voilà, font partie prenante de la vie quotidienne et des gens là-bas. Et comment intégrer la ville comme personnage au spectacle. Et le cinéma nous le permettait. Et puis nous permet aussi de... Parce qu'on a vu des films coréens et on voit bien dans les films coréens, je trouve, Séoul. Il y a un imaginaire de la Corée qui nous est vraiment venu par le cinéma. Et donc d'une certaine façon, utiliser le cinéma là, c'était aussi une façon de se relier à cette culture-là et à cette cinématographie. Et puis, le cinéma permet aussi d'ajouter au théâtre, de faire douter de la présence et de la réalité des êtres, c'est-à-dire finalement ce qu'on voit à l'écran. Alors, c'est les personnages ou ce sont les acteurs? C'est des vrais gens ou pas? Sur le plateau, c'est des acteurs qui jouent des rôles ou pas? Mais leurs témoignages sont mélangés avec ceux des personnages. Donc voilà, ça crée aussi différents niveaux de réalité que j'aime bien au théâtre et ça permet de donner de la profondeur, en fait, des plans, quoi, comme des plans, comme on pourrait le dire en dessin ou en peinture, ça donne des plans, ça donne de la perspective, quoi.
Vous avez rencontré Kim Jong-ha. Quelle place a-t-il eu, l'auteur du roman, du coup, dans cette adaptation ? Quel a été le processus de travail avec lui ?
En fait, c'était assez sympathique parce que très vite, il m'a dit qu'on faisait ce qu'on voulait et il n'avait pas tellement envie d'être impliqué, en fait, dans le travail. Après, on est plus ou moins de la même génération, on a des goûts en commun. Et donc, c'était des rencontres assez agréables où on partageait des dîners. Mais par contre... Ce que j'aimais bien avec Kim Jong-ha, c'est qu'il est assez activiste à son endroit. Il faut voir qu'il a été chroniqueur pendant 2 ans, je crois, pour le New York Times, où il était quand même très, très en réaction contre le gouvernement de l'époque. Et donc, il en parlait beaucoup. Il parlait beaucoup de corruption, de plein de problèmes qu'il y avait à ce moment-là en Corée du Sud. Et en particulier sur des histoires de construction, des achats de terrain, des choses en Séoul, qui étaient plutôt dans son quartier, qui était un quartier assez singulier. Assez mélangé et donc il était très militant en organisant des manifestations, en bloquant des accès à des rues. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui était assez actif politiquement et donc je l'ai plus suivi dans ces aventures-là en fait, quand on s'est vu à Séoul, qu'au niveau du travail et il m'a laissé très libre sur l'adaptation.
Vous parliez de goût en commun. Dès le début du roman, on trouve une référence musicale d'un groupe punk sud-coréen, Crying Nut. Ces références que le public européen n'a pas forcément, ont-ils été des obstacles dans le travail d'adaptation ?
En fait, il y a assez peu de références culturelles coréennes dans le roman. C'est-à-dire, vous avez raison pour celle-là, puis il y en a encore quelques-unes. Mais dans le roman, il y a beaucoup de citations de culture européenne, voire française. Parce que lui, à son endroit, il a été très influencé par la Nouvelle Vague... par exemple, par des films comme Ascenseur pour l'échafaud, des choses comme ça. Donc en fait, lui, il a une culture comme plein de gens qui sont plutôt artistes, écrivains, intellectuels, étudiants. Il va avoir une culture très occidentale aussi. Donc voir que la Corée du Sud, et en particulier Séoul, c'est à la fois une culture qui est très coréenne, mais de par l'influence américaine, c'est aussi une vraie culture occidentale. Donc en fait, c'est assez ouvert vers l'ouest. Et Séoul, c'est une ville très mélangée en termes de population. Il y a beaucoup de Coréens, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers. On a essayé de trouver ce qu'il pouvait y avoir de peut-être à la fois de très lié à Séoul comme personnage et qui induisait une atmosphère et un certain paysage à l'histoire. Mais en même temps, cette histoire, elle est quand même très universelle. Ça parle vraiment du mensonge, de relations humaines, de... Qu'est-ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui finalement n'est pas la personne qu'on croit ? Comment on s'illusionne dans l'amour ? Comment on pense qu'on sait tout de la personne qu'on aime, avec qui on vit ? Alors qu'en fait, on peut découvrir des choses incroyables. Et aussi, finalement, cette idée que le passé nous construit parfois à notre insu et qu'on est tous et toutes habités ou hantés par nos histoires familiales ou les histoires des pays où on vit. Parce que là-bas, à Séoul, on me disait, mais... c'est quoi la différence entre Séoul et Paris, par exemple ? Ben, je dirais que Paris ou Rennes, c'est des villes où l'histoire et le passé est là tout le temps. On va en centre-ville, on a des immeubles du 14e, 15e siècle. On va à Séoul, tout a été rasé et détruit pendant la guerre. Donc en fait, le passé, il est en eux, il est dans leurs histoires, il n'est pas à l'extérieur. Donc tout ce rapport à la mémoire, il est différent. Comment un conflit de cette nature qui se prolonge encore aujourd'hui, parce que la paix n'a toujours pas été signée entre les deux Corées. On est dans une situation qui est une situation en fait, de cessez-le-feu. Comment cette histoire et ces familles qui ont été séparées depuis plusieurs générations, comment ça agit à notre insu parfois ? Comment on est porteur des souffrances, des douleurs, des séparations, des traumas de nos familles en fait ? C'est souvent lié forcément à des situations de guerre, de conflits. Alors il n'y a pas eu de guerre en France depuis 70 ans, donc je dirais que si on n'est pas proche de gens comme ça, on a du mal à l'imaginer, mais... Mais en fait, on voit là avec ce qui se passe en Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est des guerres qui durent depuis 150, 200 ans. Et que chaque génération, elle prend le relais, en fait. C'est très particulier. C'est vrai que ce qui est fascinant en Corée, c'est que ce qu'on redécouvre là, c'est-à-dire la guerre froide, en fait, la guerre froide, elle existe toujours. Pour nous, elle s'était arrêtée avec la chute du mur de Berlin, mais on a oublié qu'elle continuait là-bas. avec la Chine et la Russie d'un côté et les États-Unis et l'Europe de l'Ouest de l'autre, avec une frontière qui est une frontière assez incroyable parce qu'elle est longue de plusieurs kilomètres, mais comme elle est intouchée depuis 70 ans, c'est une nature qui est complètement folle en fait. Et avec des gens qui s'observent d'un côté comme de l'autre, il y a des voyages organisés pour aller dans cette zone démilitarisée et regarder l'autre côté, quoi. Je pense que la Corée du Nord doit être le seul pays du monde aujourd'hui. On en est à la troisième génération de la même dynastie de dictateurs, en fait. C'est ouf.
Il y a un jeu constant entre la vérité et l'artifice, avec notamment ce personnage de Kim Wong, qui a pour vérité d'être un espion dormant et qui vit artificiellement cette vie de famille depuis 20 ans. Quels ont été les dispositifs scéniques mis en place sur le plateau pour traduire concrètement ces artifices et la vérité?
C'est déjà à l'écran avec le film. En fait. Et c'est le paradoxe du cinéma. Le cinéma, c'est complètement artificiel, mais ça donne l'impression que ce qu'on voit est vrai. On adhère tout de suite, on pense que ça, c'est la vérité. Et le théâtre, c'est vraiment des vrais gens. Mais on a l'impression que c'est un peu artificiel. On a l'impression que c'est pas vrai. Alors c'est paradoxal, en fait. Donc c'est des conventions, tout ça. Et la convention, tout ce qui a été fabriqué par le cinéma, à la fois dans la façon de filmer, le jeu d'acteur, etc., nous donne très fort le sentiment que c'est vrai, alors que c'est complètement bidon. À l'inverse, le théâtre, c'est vraiment des gens. Comme toi et moi, et qui disent des choses souvent vraies ou fausses, mais ils les disent pour de vrai, en fait. Et bizarrement, on prend ça pour quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qu'on s'est amusé à faire quand même, c'est de jouer avec ça, et de comment le film qui donne l'impression, par exemple, que les gens sont vrais et que c'est peut-être les vrais gens, il y a des moments où on s'aperçoit qu'ils n'ont pas d'ombre, ou qu'on voit leurs reflets, mais qu'on ne les voit pas vraiment, des choses comme ça. Mais c'est une façon de faire douter aussi toujours de ce qu'on voit. Et pareil sur les témoignages, au bout d'un moment, on ne sait plus si les témoignages sont des témoignages, des vrais témoignages de vrais gens dans la fiction, si c'est ceux qui ont été fabriqués pour le roman, ou si ce sont ceux des acteurs qui ont été redistribués en fonction de ce qui nous intéressait. Et le décor, c'est assez basique, c'est une table. Et sur cette table, il y a beaucoup de documents. Il y a des cartes, il y a des photos, il y a des livres, il y a des appareils d'enregistrement. Donc on est avec des gens qui sont là peut-être pour recueillir des témoignages, qui sont là pour retrouver des traces du passé, qui sont là pour partager une histoire commune. Et voilà, c'est à la fois des acteurs, des chercheurs, des archéologues, des historiens, des témoins. Et ces gens, à partir de ce matériel, vont commencer à produire une fiction qui est l'Empire des Lumières. Et à travers cette fiction, raconter une histoire de la Corée, de comment notre intimité est aussi le reflet des conflits politiques et sociaux qu'on traverse. Et en ça, je pense que ça touche à quelque chose d'universel, en fait.
Par rapport à la direction des actrices et des acteurs, vous les avez interrogés sur leur souvenir personnel de cette scission entre les deux Corées. Pourquoi cette volonté d'un ancrage du réel dans la fiction ?
Je cherchais à faire comprendre aux interprètes que... moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup le personnage, de jouer le personnage. Ce qui m'intéresse, c'est comment des acteurs et des actrices engagent ou activent quelque chose d'eux-mêmes, d'intime, de sensible, à travers les mots qu'ils disent ou à travers les situations que le théâtre propose. Et je dirais que c'est un rapport de jeu qui n'est peut-être pas si courant, ou en tout cas qui est échappé à des normes plus conventionnelles là-bas. Donc, c'était un moyen pour moi de leur faire comprendre qu'ils pouvaient se mettre un peu à distance. Donc je leur faisais jouer une scène et après je leur faisais raconter quelque chose de personnel et ensuite retourner dans une scène du spectacle. Et donc ils mesuraient comme ça dans cet aller-retour qu'en fait on n'était pas à jouer complètement un rôle dans un rapport d'identification, je ne sais pas, mais que on se laissait plutôt traverser par des paroles et que finalement quand on dit le témoignage de quelqu'un, c'est un peu comme quand on raconte soi-même son histoire et dire celui de quelqu'un, c'est pas qu'on joue un rôle en le faisant, c'est juste qu'on est interprète pour quelqu'un, qu'on est responsable de la parole de quelqu'un d'autre. Et pour moi, vraiment, c'est ça le métier d'acteur. C'est comment, en tant qu'acteur, on est traversé par une parole qui n'est pas la sienne, comment on rend visible l'invisible, comment on va parler pour des gens qui n'ont plus accès à la parole ou qui ne l'ont jamais eu. Alors, il y a soit les fantômes du théâtre, que sont les grands rôles, mais après, des auteurs comme Genet, Coltès, etc., ont donné la parole à ceux qu'on ne voyait pas sur les scènes. Donc en fait, je trouve que c'est ça qui m'intéresse le plus dans le travail d'acteur, qui est à la fois entre le témoin et le chaman. D'être traversé par l'histoire, d'être traversé par l'histoire du théâtre, par l'histoire des rôles, d'être traversé par une sorte de conscience du monde qui va ensuite s'exprimer avec les mots de quelqu'un d'autre. Et qu'on a comme interprète sur le plateau cette responsabilité en fait, de prendre en charge la pensée et le rapport au monde et les mots de gens qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas le faire.
Dans le spectacle, on assiste, et même dans le roman d'ailleurs, on assiste à la séparation d'un couple qu'on pourrait assimiler à la séparation des deux Corées. Tout cela se fait dans la douleur et avec une certaine violence. En quoi se questionner sur l'intime du couple peut-il nous amener à se questionner sur la société dans laquelle ils vivent ?
Eux comme nous, hein. C'est-à-dire, puisque là, ces dernières années, on a bien vu que l'expression du pouvoir, l'expression des rapports de domination qu'on va éprouver dans le monde quotidien s'exprime ensuite aussi dans la chambre à coucher. Enfin, j'ai toujours pensé que tant qu'on ne réglerait pas ces problèmes-là, on ne réglerait pas le racisme, par exemple. C'est-à-dire que des gens qui peuvent se conduire comme ils se conduisent dans la sphère intime, en termes de rapports de domination, de sexisme, etc., je ne peux pas les croire quand ils me parlent d'antiracisme. Donc, à un moment, ça passe déjà à cet endroit-là, c'est-à-dire dans les rapports hommes-femmes et dans l'intimité. Dans l'intimité, une fois qu'on a passé la porte de la chambre, en fait. Et c'est vrai que des choses se jouent là, qui sont toujours la reproduction, en fait, de schémas qu'on retrouve dans la société, dans la façon dont s'organise la société et dans les rapports entre les gens à travers le monde du travail ou social, etc. Donc, en fait, comment, depuis des décennies, siècles, se sont mis en place des rapports de domination, d'oppression, à plein de niveaux, et qui sont en fait liés aussi à des systèmes de pensée, à des systèmes économiques, à des systèmes marchands, et qu'on reproduit dans l'intimité. Ça, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on doit vraiment partir de l'intime et des questionnements qu'on peut avoir dans le rapport qu'on a à l'autre, parfois la personne la plus proche, enfin physiquement la plus proche, et de voir comment aussi, d'un seul coup, il y a des reproductions de schémas qu'on a intégrés, souvent malgré soi, enfin des injonctions, des modèles dont il est parfois très difficile de se sortir, mais si on ne fait pas un peu ce travail, chacun à son endroit, ouais, ça n'évoluera pas. Et je pense que d'une certaine façon, notre intimité est le reflet des constructions politiques qui font partie de notre époque et d'avant. C'est-à-dire qu'on les reproduit aussi. Donc pour moi, c'est vraiment des questions d'éducation, de transmission, d'éveil. Maintenant, tous ces mots, on les emploie beaucoup, et donc j'ai tendance à du coup les employer de moins en moins, parce qu'au bout d'un moment, les mots perdent vraiment de leur sens et de leur définition quand on les emploie trop. Mais voilà, quand on a fait le spectacle, on n'était peut-être pas dans ces considérations, mais en tout cas, c'est ça que ça voulait raconter, comme je le racontais dans La Dame aux Camélias. Voilà, c'est comment notre histoire historique et notre histoire politique nous façonne. Et nous définit dans l'intimité, comment notre intimité est révélatrice, finalement, de ce que la société fait de nous. Après, on n'est pas victime, hein, à un moment, on en est responsable aussi. Hein. Donc, c'est aussi, voilà, c'est dans l'aller-retour de ça. Ouais.
C'est d'autant plus intéressant de se poser cette question-là avec des actrices et des acteurs coréens, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, rien n'est visible, tout est dans l'intime. Par rapport à Séoul, ou qui a été détruite, dont on ne voit rien, mais tout est à l'intérieur d'eux et elles. Quoi.
Oui, puis le rapport à la famille est très important. Les gens, il y a plusieurs générations sous le même toit. Donc, les enfants sont élevés par les grands-parents. Enfin, il y a une plus grande proximité en termes justement de transmission et d'éducation. Les gens vivent ensemble, vraiment. Et puis, c'est très rare aujourd'hui qu'une jeune femme de 30 ans vive seule. Hein, on est dans la famille, ensuite on est avec son mari, puis après on est avec la famille du mari. Enfin, on est dans une société qui est pas du tout le même modèle que la nôtre. Pour des raisons de tradition, des raisons économiques, des raisons de bonne conduite. C'est des sociétés qui sont très rigides du point de vue des règles sociales. Donc ça se passe complètement différemment. Ouais.
Pour en revenir à l'adaptation, vous et Valérie Mregen avez adapté pour le théâtre de nombreux textes qui n'ont pas forcément été écrits pour être joués, comme La Dame aux Camélias, Fin, Kaddish ou encore Yann Karski, Mon nom est une fiction. Pourquoi cette appétence à l'adaptation théâtrale de textes plus littéraires ?
En fait, je ne me pose pas la question comme ça. Il y a des textes de théâtre voilà, qui me parlent. Et puis après, ça a pu être des romans, des poèmes, comme dans le cas d'Allen Ginsberg. C'est des contextes, des situations. Et voilà, Yann Karski, c'est quand j'ai lu ce livre, je me suis dit qu'il fallait absolument que ça devienne un spectacle, et c'est ce qu'on a fait. La Dame aux Camélias était un mélange du roman et de la pièce, on mélangeait les deux. C'est des opportunités. Si je peux revenir, là je vais revenir au théâtre. Les prochaines créations, il y a deux spectacles prévus qui sont vraiment du théâtre. Il y en a un qui mélange le théâtre et un roman. Non, c'est vraiment la question du projet, etc. Mais après, j'ai toujours trouvé ça passionnant, hein, d'avoir ce travail d'adaptation et d'arriver à produire du théâtre avec de la littérature. Je trouve que c'est intéressant. Et peut-être qu'il y a aussi derrière l'envie d'une langue, l'envie de... les romans dont vous parlez... La Dame aux Camélias, c'est 19e. Mais j'allais dire, c'est aussi des romans d'aujourd'hui, comme Yann Karski. C'est peut-être de trouver et de faire du théâtre aujourd'hui avec des textes d'aujourd'hui, qui soient quand même des grands textes et de la littérature, et l'envie d'une langue parfois, ou des situations. Non, c'est vraiment... j'ai pas d'a priori, je pourrais partir parfois de rien, de textes littéraires, de poèmes, de théâtre. Non, c'est vraiment... ça a été des différentes opportunités.
Merci beaucoup.
Merci.
On rappelle les dates de l'Empire des Lumières. Le rendez-vous est donné depuis hier et jusqu'au mardi 10 mai. Aucune excuse pour ne pas assister à ce mélange entre enquête et émotion. Et c'est bien sûr au TNB.
Merci Martin d'avoir réalisé cette interview.
Et merci à Arthur Noziciel d'avoir accepté de répondre à nos questions.
On se retrouve la semaine prochaine avec Claude Guinard, directeur des Tombées de la Nuit, et Massimo Furlan, qui nous parlera de sa création très attendue, Le Cauchemar de Séville.
Rendez-vous donc la semaine prochaine sur Syllab.
D'ici là, portez-vous bien et des bisous.
Des bisous.
Pourquoi je fais du théâtre?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
Tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabes.